Microsoft. Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui un partenariat afin de développer la conduite autonome des futurs véhicules, des logiciels embarqués et connectés pour se déplacer sans toucher au volant. Un dernier mot de football où Neymar est déclaré forfait pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ça se passera mardi à Barcelone. Blessé hier à Caen en Coupe de France, l'attaquant du Paris Saint-Germain est indisponible pour environ 4 semaines. Annonce ce soir le club parisien. RFI en direct de Paris. Il va bientôt être 18h10.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne dédiée aux actualités, découvertes et pépites, qu'elles soient culturelles, locales et parfois un petit peu d'ailleurs. On est jeudi, c'est la fin de semaine pour l'émission, peut-être bientôt pour vous aussi, demain, bref, votre emploi du temps. Ensemble ce soir, on retrouvera des toiles plein les yeux, la chronique où Margot nous emmène au cœur du cinéma et plus particulièrement de la mise en scène ou de films qu'on aime. Ce soir, on va parler d'Agnès Varda. Il y aura aussi un reportage sur le service civique, notre rendez-vous hebdomadaire. Et on retrouvera Luc avec une chronique dans le bruissement des feuilles pour parler littérature. Voici le programme, c'est Annelie derrière le micro, un petit peu comme chaque soir. Et le proverbe qui m'a été soufflé tout à l'heure par Céleste est « Le cheval court, le cavalier se vante ». À méditer. On débute en musique, bien entendu. Et ce soir, c'est avec Moondogs et le titre Birds Lament. C'est une nouvelle incursion littéraire de Luc dans cette émission, avec dans le bruissement des feuilles, la chronique littéraire.
Bonjour Annie, j'ai toujours été convaincue qu'il n'existait pas d'œuvre d'art absolue, d'œuvre d'art qui serait perçue par n'importe quel individu comme géniale, indépassable. Alors il faut que tu saches que les aficionados du jazz m'ont rebattu les oreilles avec le pianiste de jazz Thelonious Monk. Pendant des années, le mettant au pinacle, je ne te cache pas que cela m'a toujours laissé plus que perplexe. Ce jazz dérythmé, ces improvisations qui ne se terminent pas, ces répétitions de petites séquences incompréhensibles, ce musicien qui semble toujours jouer à côté, non, très peu pour moi. Mais voilà, il y a des miracles dans la vie. Connaissant mes réticences et ne voulant pas que je meure dans la plus totale ignorance, il y a quelques mois, mon fils m'a offert un livre, Monk, écrit par Laurent de Wilde. Laurent de Wilde, je connaissais de nom, je savais que c'est un musicien de jazz, dans la veine plutôt contemporaine, mais je ne savais pas qu'il écrivait. Monk, le titre à lui seul dit tout, il s'agit d'une biographie. Mais il s'agit de bien plus qu'une biographie, ce serait un peu comme un millefeuille, mais sans crème pâtissière au milieu. Déjà, Laurent de Wilde inscrit Thelonious Monk dans son époque. Son livre est une traversée du jazz du XXe siècle, des années 1930 aux années 1980. Il nous fait rencontrer certains des plus grands musiciens de jazz, Art Blackett, Jerry Mulligan, Miles Davis, John Coltrane, qui tous furent à un moment ou à un autre compagnons de route du grand Thelonious. Surtout, il nous raconte une autre histoire de l'Amérique. Pas celle des blancs conquérants qui font l'histoire officielle, celle des pionniers partis à la conquête du Wild Wild West. Non, mais celle du prolétariat noir qui vit à l'écart des lumières de la ville, qui est discriminé, qui vit dans la plus grande pauvreté, non pas à Harlem, comme on a tendance à le penser, ça s'est venu bien plus tard, mais dans le quartier de San Juan Hill, au sud de Central Park, pour les touristes, du côté de Columbus Circle. Laurent de Wilde nous fait comprendre que cette population noire avait sa propre vie, une vie foisonnante, presque parallèle à celle de la ville blanche. Nombreux étaient les clubs de jazz où les musiciens pouvaient jouer toutes les nuits en courant le cachet. Laurent de Wilde déroule la vie de Monk, pièce par pièce. Il nous parle d'un musicien génial, resté longtemps dans l'anonymat de façon inexplicable. Il nous parle du style de Monk, de ce qui fait que cette musique est exigeante parce que ne s'inscrivant pas dans les modalités du jazz de l'époque, thème et chorus alternés. Il analyse même la forme des doigts du musicien en se demandant comment de telles mains pouvaient produire cette musique. Il rapproche Monk de Glenn Gould par la posture improbable que ces deux musiciens avaient devant l'instrument. Il parle de sa consommation de drogue, de toutes les drogues. Il décrit un comportement complexe, passant par des périodes de grand mutisme et d'isolement, pour ne le nommer qu'à la toute fin du livre, la schizophrénie. Les dernières années de Monk passées chez la baronne Panonica, femme d'origine allemande très fortunée et mécène du jazz, dans un quasi-mutisme, écrites par Laurent de Wilde, sont bouleversantes. Et en nous exposant tous ces éléments, en assemblant les pièces du puzzle, il nous fait presque entendre la musique de Monk dans une écriture magnifique. Et sa méthode marche. On n'a qu'une envie en fermant le livre, c'est d'aller vérifier ce que l'on a lu. Écouter les ralentissements de tempo, les contretemps, les petites répétitions, les improvisations inachevées, les silences. Et l'écoute correspond à ce que Laurent de Wilde a décrit. Cette découverte est bouleversante. Notre oreille est transformée. Je n'ai plus entendu Monk de la même manière. Le livre, il s'appelle Monk. Il est de Laurent de Wilde et on le trouve facilement chez Folio.
Merci beaucoup, Luc. Moi, ça m'a donné envie, en refermant cette chronique, d'aller écouter tout Monk déjà, que je réalise que je connais très très mal.
C'est effectivement un musicien qui est très passé très à côté. D'ailleurs, je sais, pour moi, ce livre, c'est vraiment un coup de cœur. Hein. C'est vraiment un enthousiasme. Je l'ai dévoré. Enfin, j'étais presque, alors qu'on est face à une vie assez terrible, euphorique en l'ayant lu. Parce que tout d'un coup, j'ai compris un musicien, j'ai compris un homme, tout simplement. Et il est tellement, enfin, il est tellement à côté, ce musicien, que Borisien, dans ses chroniques de jazz, en fait, il en parle très très peu. Il l'évoque, il le cite, mais en fait, il en parle très très peu. Il parle d'autres musiciens, mais dans ses chroniques, il en parle très très peu. Je crois que j'ai relevé 16 fois la citation de Monk dans la... les chroniques de jazz de Borisien.
Ouais, mais c'est vrai qu'avec l'histoire, comme elle s'écrit, on voit qu'il y a aussi des positions qui se redessinent, des personnes qui prennent leur place parfois après leur mort, etc. Enfin bon, c'est le jeu de l'histoire. Ouais, je vais aller écouter ça.
Alors, si tu veux écouter quelque chose de, vraiment, moi j'ai je suis tombé sur ce disque par hasard. Je savais pas que c'était un disque important. Donc voilà, il y a le disque qui s'appelle Thelonious Monk with John Coltrane. C'est un enregistrement de 57. C'est un disque qui est superbe. Le dernier titre, le tout dernier titre qui s'appelle Monk's Mood, qui est un solo de piano de Thelonious Monk, c'est à pleurer. C'est vraiment éblouissant. Donc ça, c'est une recommandation. Je crois que c'est un disque incontournable.
Ouais, je pense que les habitués du jazz doivent nous écouter en disant mais évidemment, mais c'est bien aussi d'être néophyte et de se dire ah ouais, j'étais passé à côté de ça et c'est important et surtout ça me touche parce que c'est ça qui nous intéresse et qu'est-ce qui nous touche. D'autres livres que tu veux nous conseiller sur la musique en quelques instants ou...
Alors sur la musique oui, il y a plusieurs choses. Alors, il y a vraiment des grandes références. Il y a des incontournables, tout ça. Effectivement, je pourrais parler d'une des références, c'est Nick Toches, aux États-Unis, qui a écrit vraiment une foultitude de choses. Et sa biographie de Jerry Lee Lewis est emblématique. Mais il y a des gens que je trouve moins intéressants en livre, mais aussi qu'on peut aller lire ailleurs. Je pense par exemple au blog de François Gorin sur le site de Télérama. Il a une chronique sur la musique qui est magnifique. C'est-à-dire que c'est insupportable parce qu'on lit, on écoute, et en fait on passe son temps à faire ça, et on découvre des choses qui sont strictement, alors là vraiment, strictement inconnues. Donc ça c'est vraiment... moi j'adore ce blog. Après il y a des choses qui sont vraiment très différentes. Moi je pense par exemple à quelqu'un qui a aussi été... alors on change de genre, mais en musique classique, mais plutôt contemporaine, il y a ce qu'a fait Claude Samuel... qui était un très grand critique, qui est décédé tout récemment. Claude Samuel était vraiment un grand critique de musique. Il a écrit des livres sur Olivier Messiaen. Et je pense que, à nouveau, en lisant des livres comme ça, tout d'un coup, on se dit « Ah ben oui, cette musique qui est complètement insupportable, Olivier Messiaen, si on écoute ça comme ça, on n'y comprend rien. » Sauf qu'après avoir lu Claude Samuel, tout d'un coup, on se dit « Ah ben oui, je commence à saisir pourquoi c'est comme ça. » Voilà. Donc ça, pour moi, c'est c'est des grands auteurs. Ils écrivent, ces gens-là. D'autres choses qu'on peut recommander, enfin que moi j'ai lu, il y a un très bon roman graphique chez Steinkiss qui s'appelle La Baronne du Jazz, qui a été fait par Stéphane Temaillon et Priscilla Horviller. Alors j'ai eu l'occasion de le critiquer dans une autre émission dans Calibre 58 l'an dernier. Je savais pas que ça allait revenir comme ça. C'est une très beau roman graphique qui raconte la vie d'une femme qui s'appelle Panonica, ce qui nous renvoie d'ailleurs à Nantes et à la salle de spectacle Panonica. Si on se demande pourquoi la salle s'appelle Panonica, c'est parce qu'il y a eu la baronne qui s'appelait Panonica, qui a été une mécène du jazz et qui a accueilli les musiciens chez elle. Monk a fini sa vie chez elle. Il a habité 6 ans. 6 ans, dans ces 6 années, il n'a pas dit un mot. Il est mort en silence, il ne jouait plus, et il y avait sa femme qui habitait aussi là, mais il ne parlait plus à personne, il était complètement enfermé à l'intérieur de lui-même. Ce roman graphique est vraiment intéressant parce qu'il retrace aussi cette époque du jazz. Voilà, moi si j'avais des choses comme ça à citer, il y a aussi un personnage que... il y a un personnage que j'adore qui anime une émission de radio qui s'appelle Mishka Asayas, qui a une émission qui s'appelle Very Good Trip.
Sur France Inter
à 21h, c'est ça, ouais. Et il a écrit une série de bouquins qui sont là aussi d'une culture extraordinaire et on en sort enrichi.
Oui, c'est un vrai conteur de la musique.
Ah, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait.
Bon, je mettrai les références, peut-être pas toutes. Il y en a peut-être une ou deux qui vont passer à la trappe. parce que je l'avoue, je le confesse. Mais si, on va quand même les mettre en ligne sur le podcast. Mm-hmm. Moi aussi, j'aime bien rajouter mon grain de sel. Je fais des recherches quand même, j'essaye de nourrir cette émission. Quand tu m'as parlé de livres sur la musique, moi, ça m'a fait penser à une bande dessinée qui s'appelle Ping Pong. Alors, qui a été écrite par Svian. On peut la trouver désormais aux éditions Pow Pow, qui sont des éditions canadiennes, québécoises. Et en fait, c'est un livre qui a d'abord été un fanzine qu'elle a auto-édité. Donc elle est dessinatrice, mais elle a aussi une pratique de la musique, du piano, vraiment à un niveau important. Mm-hmm. Et pendant toute cette bande dessinée, elle analyse les arts, la création en général. Ah. Tu vois, on va parler de dessin. Est-ce que telle contrainte en dessin, on la retrouve en musique? Comment c'est très très riche. Il y a beaucoup de textes en fait. Ouais. Ça fait appel à des notions de création. On parle de philosophes, de énormément de choses, d'expérience aussi d'artistes. Et en fait, c'est vraiment comme une conversation qu'on pourrait avoir avec un ou une amie. Donc c'est très accessible aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça part de ce fanzine là qu'elle a écrit elle en partant de son expérience, mais la version qu'on trouve éditée est la version augmentée. Il y a des choses sur lesquelles elle est revenue, il y a des dessins dans la marge où elle dit ça je suis plus d'accord, ça je suis d'accord, ou je l'élargis, etc. C'est très vivant.
Écoute, là je note parce que voilà, le plaisir de découvrir. On est dans l'émission qui s'appelle L'oreille curieuse. Et donc on découvre. Et ça me ravit d'entendre ce que tu évoques là, ouais.
Bon, génial. J'espère que vous qui écoutez aussi, vous êtes ravis de nous avoir entendus sur tout ça. Merci beaucoup, Luc.
Eh bien, écoute, à dans 15 jours.
Ouais, avec plaisir.
Dans 15 jours, on reparlera de Monk.
Encore.
Mais par une autre entrée. Et là, on va se poser la question, dans 15 jours, comment on sait qu'on est noir?
Très bonne question. Et surtout, comment on sait qu'on est blanc aussi?
Et par,
tout ça
par,
va ensemble.
Exactement. Ça sera dans 15 jours.
J'ai hâte. Bon. Et l'oreille curieuse continue sur Radio G avec la suite de notre série de reportages sur le service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Aujourd'hui, Jade FM découvre avec vous un dispositif dont le service civique est le rouage central. La structure d'accueil s'est entourée de nombreux partenaires, tous engagés sur les différents aspects de l'insertion professionnelle, mais aussi sociale des jeunes. Nous sommes sur la communauté de communes Sud-Estuaire. La structure d'accueil est le centre socio-culturel Mireille Moyon à Paimbœuf, le CSC. Action Jeune, c'est le nom, semble-t-il, provisoire de cette action où 7 jeunes sont accueillis dès le mois de décembre. Marina Chupin, coordinatrice, et Steven Barbier, formateur, nous en disent plus sur la spécificité du dispositif.
On use du service civique comme outil pour permettre à ces jeunes de franchir ce qui pour eux semble être un obstacle, en tout cas dans leur parcours de vie aujourd'hui, qui les empêche en quelque sorte de tendre vers l'insertion professionnelle aujourd'hui. Nous, on pense qu'il y a cette étape-là en amont qui est l'insertion sociale.
Le service civique pour aider les jeunes en difficulté, cela implique une sélection des candidats non plus sur un projet professionnel, mais sur une connaissance de leur environnement plus global.
Que ce soit autour de l'isolement ou autour de l'addiction, jeux vidéo, alcool, drogue, enfin, etc. C'est vraiment des jeunes qui ont ce type de profil. On sélectionne ces jeunes. Et on est en partenariat avec la mission locale, un agent de prévention également sur la Comcom qui font aussi qu'ils vont rediriger ces jeunes vers cette mission. En tout cas, on a souvent des profils qui nous correspondent en termes de jeunes.
Marina Chupin coordonne l'action et bien au-delà.
Aussi, nous intégrons les parents dans cette action, surtout cette année. Il y a vraiment un besoin aussi que les parents s'investissent, c'est quand même principalement des jeunes mineurs. Mm-hmm. C'est notre objectif de cette année, en fait.
La CCSE, ce sont 6 communes à majorité rurale et côtière.
Et on parle beaucoup d'isolement aussi à cause de la mobilité. Nous avons notre territoire, voilà, est mal desservi. Donc, y répondre, c'est très difficile. Mais vraiment, là, nous, on est situé au milieu de tout ça, le Pabœuf, et du coup, on touche vraiment tous les jeunes de la CCSL.
Avec donc un animateur agent de prévention, avec une conseillère mission locale, mais aussi pour les familles avec un assistant social du département. On est une équipe de 5 professionnels qui se réunissons toutes les 2 semaines au travers de réunions, de ce que l'on appelle des réunions de concertation, pour pouvoir échanger justement sur assez régulièrement sur les jeunes, sur la manière dont se déroule le dispositif et de voir un peu s'il y a des pistes d'amélioration ou s'il y a des choses à pointer plus particulièrement.
Franchement, c'est quand même surprenant que je trouve autant de jeunes arrêtent en troisième et qu'il n'y ait pas du tout d'accompagnement derrière, que ce soit avant et après. Donc moi, je ne parlerai même pas d'isolement parce que c'est des jeunes quand même qui ont des copains, pour certains, je dis bien pour certains, la majorité. Il y en a forcément quelques-uns qui s'isolent, mais il y a quand même ça. Après, ils s'isolent aussi autour du jeu, des jeux vidéo. Ouais. Mais il n'y a pas que ça quand même. Moi, je trouvais par rapport à l'année d'avant, quand même, ce qui ressort, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les décrocheurs. Et problématique, oui, ça. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a cette action-là qui permet à ces jeunes-là de venir, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils iraient où? Qu'est-ce qu'ils... Voilà.
Nous retrouverons très vite Marina et Steven qui nous diront ce que vont faire concrètement durant leur mission les 7 jeunes accueillis au CSC. On dirait bien que pour eux, il va y avoir du changement.
Alors, on l'a nommé le dispositif Action Jeune.
On n'a rien à dire, au final, il y a jeune dedans, il y a action, bon, bah, c'est cool.
Permettre aux jeunes aussi de trouver un titre à cette action.
Ils ont travaillé cette année, je pense que c'est des jeunes qui vont trouver le nom et... Et ce sera plus sympa, je veux dire, voilà, puis que ça vienne d'eux, ben voilà, moi, ça va parler, je pense.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Saw you fall down the stairs, it was me pushing you, innocence. Tell me the truth, is that blood on your hands or just chocolate and fruit? That isn't what I heard. This world went down in flames and man-made caves, an island of leopards. No kind of place to stay. Came into view. I'll just fly through the light like the dust in the room. Reminisce. Walk through the zoo. And I sweep up my dreams with the pan and the broom. Now show what comes after. Life just went down a drain of rainy days. Way up in the rafters, I float where the organ fades. If it's not all that important, then why make fuss at all? Just whistle a tune while you dig in a grave on a hot afternoon. Happiness left here too soon. With a map and a bag on a plane to Tulum. Best medicine's laughter. What a practical joke we have to play. Let's wait for the rapture. Man, the phone banks with talking snakes. If it's not all that important, then why make a fuss at all? Oh.
êtes bien sûr sur le 101.5, la fréquence de Radio G. Et c'est l'oreille curieuse. On va maintenant retrouver d'étoiles plein les yeux, la chronique cinéma. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Lie et bonjour à toutes et tous. Alors que les salles de cinéma sont toujours fermées, je reviens à l'antenne avec mes petits extraits sonores pour évoquer avec vous un film à retrouver en DVD ou en VOD.
Alors ce soir, tu nous parles de quoi ?
Eh bien, je suis un peu en avance, mais ce dimanche 14 février, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin, donc je vous propose un grand film d'amour. Mais ne vous méprenez pas. Point de comédie romantique ou de film pour adultes. Plutôt un émouvant cadeau d'adieu, d'amour et de cinéma que s'est échangé un couple mythique du 7e art comme un ultime dialogue par caméra interposée. Alors, je garde encore un peu le mystère sur le titre du film et vous propose d'écouter un premier extrait. Nous sommes dans un atelier d'artistes lumineux.
J'ai d'abord été étudiant de cinéma, j'étais chômeur, puis cinéaste, et j'ai rencontré une cinéaste et nous avons fait quelques films, puis elle m'a donné un bel enfant et puis maintenant je fais de la peinture.
La caméra balaye des croquis colorés sur les murs et des toiles sur des chevalets. Elle s'arrête sur le tableau d'une plage dans la nuit, avec à droite un panneau stop et à gauche une baraque blanche sur pilotis qui peut évoquer un rivage américain. Une autre toile représente un saunier qui récolte du sel dans un marais. Et nous voilà à présent sur la plage de Noirmoutier, face à la mer.
Des monts et merveilles, vents et marées, au loin, déjà la mer s'est retirée. Et toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit. Tu remues en rêvant.
Je ne sais pas si vous avez reconnu ces voix, mais il s'agit de celles de Jacques Demy et d'Agnès Varda. Varda et Demy, un couple de cinéastes et de légendes. La première a filmé comme un retour aux sources l'enfant du second, l'enfance du second alors malade. Jacques Demy s'est éteint en octobre 1990, une dizaine de jours après la fin du tournage de Jaco de Nantes, le film d'Agnès Varda dont j'ai choisi de vous parler ce soir.
C'est un film triste, non ?
Eh bien, pas du tout. C'est plutôt une évocation joyeuse et malicieuse de l'enfance de Jacques Demy, réalisateur d'une quinzaine de longs métrages devenus des classiques du cinéma. Les Parapluies de Cherbourg, Peau d'âne ou Les Demoiselles de Rochefort. À la fin des années 1980, trop fatigué pour se lancer dans un nouveau projet de film, il commence à écrire ses souvenirs d'une jeunesse marquée par la Seconde Guerre mondiale et habité par son désir, très jeune et contre l'avis de son père, de devenir cinéaste. Jacques Demy, dit Jaco, a grandi à Nantes, dans un modeste appartement au-dessus du garage familial. Avec une petite caméra achetée d'occasion, il réalise, image par image, de premiers courts-métrages d'animation qu'il projette ensuite à ses proches. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de Jaco de Nantes. Cheveux grisonnants, visage émacié, Jacques Demy est installé à son bureau devant des feuillets couverts de son écriture.
Pour Jacques, l'enfance était un trésor et la sienne une source d'inspiration pour ses films.
Allez, maintenant, hop, laisse-moi écrire.
Cet an dernier, il écrivait ses souvenirs d'enfant et il m'en parlait beaucoup. Les anecdotes remontaient à sa mémoire, des noms oubliés, des détails soudain présents.
Image en noir et blanc de Jacques Enfant, consacrée sur ses devoirs.
Il parlait de cette toute petite cuisine où se passait l'essentiel de la vie de famille.
Allez.
Il parlait surtout de sa mère, qui en était l'âme et l'organisatrice.
À l'écran, la famille Demy est réunie dans la cuisine. Le petit Yvon se met à chanter.
Marie-Lou, Marie-Lou, souviens-toi du dernier rendez-vous. Marie-Lou, Marie-Lou.
Il aimait évoquer les dimanches où l'on sortait et ceux où le temps passait doucement. Il avait vécu ce qu'il appelait une enfance heureuse.
Dans la cour du garage, l'image toujours en noir et blanc d'une voiture sous la neige. Devant une fenêtre, Jaco observe intensément. Le plan d'après, en couleur, montre le mur lézardé du garage enneigé. La séquence se conclut avec un gros plan sur l'œil ridé de Demi qui s'ouvre, comme en écho au regard de son personnage enfant.
Je me demande encore par quel transfert, par quelle osmose, par quelle intuition, j'ai pu filmer la vie de Jaco Demi, comme si j'avais partagé cette enfance, ou mieux encore, comme si cette enfance se déroulait au présent.
Cette impression, à mille lieues de toute nostalgie ou mélancolie, est vraiment très réussie dans le film d'Agnès Varda. Il me semble qu'elle repose sur la virtuosité du montage, qui organise des allers-retours incessants entre présent et passé, jusqu'à les fondre l'un dans l'autre. Jaco de Nantes se présente comme un collage malicieux de trois types d'images qui se répondent. Des séquences en noir et blanc ou en couleur, tournées à Nantes, qui recréent au plus près des souvenirs l'enfance de Jaco entre 8 et 17 ans. Des extraits de la plupart des films de Demi, et enfin de courts plans très émouvants du cinéaste à la fin de sa vie, le long de la plage de Noirmoutier, ou occupé à écrire à son bureau.
C'est Jacques Demi qui a écrit le scénario du film ?
Non, ses mémoires ont servi de base, bien sûr, mais elles ne constituaient pas un véritable scénario de film. C'est Agnès Varda qui, à partir des descriptions de son mari, a retenu certains épisodes, identifié des détails subtils mais déterminants pour lui, écrit les dialogues. C'est elle surtout qui a mobilisé des moyens de cinéma originaux pour nous donner à voir et à entendre les émotions de Jaco, celles qui feront de lui un grand cinéaste.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Eh bien, prenons par exemple les séquences qui recréent la jeunesse de Demi. Elles sont souvent tournées en noir et blanc, mais certaines sont en couleur, comme ce mur enneigé du garage que Jaco observe à la fin de l'extrait que nous avons écouté. Voici ce qu'en dit la réalisatrice Agnès Varda.
J'ai choisi d'imaginer que Jacques avait fixé dans sa mémoire certaines images à certains instants. La poupée avec sa jupe étalée sur un lit, des papiers peints, le rouge de guignol et des affiches de films. C'est aussi que ces instants ont déterminé, je crois, le talent qu'il avait de s'exprimer par la couleur.
De façon très originale, dans Jaco de Nantes, le noir et blanc ne signale pas une époque révolue, mais plutôt une vie quotidienne simple qu'éclairent de ci et de là des plans en couleur. Ce sont eux qui témoignent des émotions fortes de l'enfant devant un spectacle de guignol, une représentation théâtrale ou un film au cinéma. Écoutons maintenant un nouvel extrait qui se situe au tout début du film. La scène est en noir et blanc et se déroule dans le garage Demi. Jaco s'amuse avec deux copains pendant que son père répare une voiture. Sa mère, Marie-Lou, coiffeuse et pompiste, s'occupe à la fois d'un automobiliste venu faire le plein et de la mise en pli d'une cliente chanteuse d'opérette. Jaco écoute les vocalises de sa voisine. Ses copains s'approchent. Dans le fond sombre du garage, les garçons baissent leurs frottes.
T'inquiète, on part, ça se fait. Même plus tard, à l'armée, les types se la montrent pour comparer, pour mesurer, pour savoir.
Pour savoir quoi ?
Attention, il y a quelqu'un qui vient. Comme dit le proverbe, promets-la dans ta culotte, ça mange pas de pain.
Les trois copains sortent tranquillement de derrière les voitures. Dans un travelling fluide, la caméra les quitte pour nous donner à voir d'autres ambiances du garage encombré d'outils. Elle se rapproche d'un ouvrier qui s'affaire sur une jante. La caméra continue son exploration du lieu et le son nous informe de la ruche sympathique qu'est ce garage quand une voiture débarque lentement dans l'image, les garçons accrochés aux portières.
Ah, les trois mouches du coche.
Bah, pas la Cynthia.
Bonjour, monsieur Blondeau.
Bonjour, mon pillard. Et tes devoirs, tu les as faits ?
Bah, c'est vrai, ça. T'as fait tes devoirs ?
Si, on y va, bon, monsieur.
Encore pas. Vas-y, fais ce que te dit papa.
Oui, moi. Dépêchez-vous, madame Marie-Lou.
Juste 5 litres. Bravo. Vous servez comme un chef.
Bonjour, mon petit Yvon. Tu as fait la sieste ?
Bonjour, madame.
Merci, monsieur Jean.
Mais vite, je peux pas rester la cacotte éprisée l'autre part. Je joue Véronique dans une heure.
Pendant que sa mère et sa cliente rentrent poursuivre la coiffure, Jaco monte sur une échelle sous le regard de son petit frère Yvon. À l'étage, il salue sa jeune voisine déguisée qui danse à sa fenêtre sur un air d'opérette.
C'est dans la deuxième partie, ça ?
Oui, c'est ça. C'est dans le duo de l'âne.
Allez, c'est l'heure de l'apéro.
Faire être chaud. Descends de là, je veux pas que tu montes sur cette échelle. Et tes devoirs, tu les as faits ?
Laissez mon cartable au fond.
Jaco repart vers le garage où il retrouve son père avec un client.
C'est terminé ?
Oui.
Le père referme le capot.
Le moteur cliquette encore un peu à froid, mais c'est normal.
Merci.
C'est terminé. Oui. Le moteur cliquette encore un peu à froid, mais c'est normal. Merci. Merci.
Nous avons basculé dans une comédie musicale en couleur de Jacques Demy, Les parapluies de Cherbourg, dont la séquence se termine sous la pluie. Par le montage, l'eau qui tombe dans la rue nous ramène à la séquence en noir et blanc de l'enfance de Demy. Agnès Varda avait intitulé initialement son film « Évocation d'une vocation », avec l'envie de rendre hommage aux riches heures de l'enfance de Demy qui ont vu naître sa vocation précoce de cinéaste et ont plus tard nourri son œuvre. La mise en scène du film témoigne de ce projet. Comme on vient de l'entendre, on glisse régulièrement dans Jaco de Nantes de séquences de jeunesse à des extraits de films de Demy qui prolongent ou font écho à son enfance. Et c'est un réel bonheur de spectateur de découvrir les trouvailles de montage et de raccords pour que ces scènes s'agencent fluidement. Cet art du collage, la réalisatrice en est passée maître et le revendique.
Du coq à l'âne. J'assume complètement, ça m'amuse beaucoup. Au fond, j'ai une terreur que les spectateurs s'ennuient. Que ce soit le sujet, quel que soit le sujet, il faut des surprises, des images, des trucs à regarder.
Des trucs à regarder, mais aussi à écouter. La richesse du film d'Agnès Varda est également sonore. Celui-ci est rythmé de nombreux extraits de chansons populaires, de musique classique ou d'opérettes, qui ont, comme les films, constitué un trésor d'inspiration pour le cinéaste en herbe. Le son sert aussi à marquer l'époque, celle de la Seconde Guerre mondiale. Nantes est alors en zone occupée et les habitants qui le peuvent quittent la ville. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de Jaco de Nantes. Marie-Lou passe devant la boucherie Jolin.
On ferme, Madame Demy, on ferme boutique.
Et vous fermez pour devant ?
Les Allemands seront là dans 2-3 jours. Ils saccagent tout, ils tuent. Nous, on s'en va.
Alors, vous partez tous, Madame Jolin ?
Alors, on retourne à la ferme.
Oh, les Jolins s'en vont.
Moi, je sais pas. Oh, moi, je sais pas.
À la maison, devant un garage miniature, Jaco et son frère discutent.
T'as envie de partir, toi ?
Je sais pas.
Jaco se tourne alors vers son père.
Papa.
C'est vrai, les Allemands arrivent. On part ou on part pas ?
Partir où ? Je peux pas laisser maman toute seule.
À l'image, le porche du garage Demy devant lequel se pressent voitures et charrettes lourdement chargées. C'est surtout par l'ambiance sonore très présente que se traduit cet exode qui laisse à Jaco un sentiment durable. Alors j'ai parlé de films d'amour tout à l'heure. Agnès Varda a accueilli les mémoires de Jacques Demy comme un cadeau. Et à son tour, elle lui a offert de terminer sa vie sur un plateau de cinéma un peu particulier, celui de sa propre enfance qui était rejouée sous ses yeux. Par chance, le garage familial à Nantes n'avait pas été détruit et il a pu accueillir le tournage du film. Et Jacques Demy, même fatigué, s'y est rendu régulièrement avec plaisir pour revivre à la fin de sa vie cette enfance chérie. Jaco de Nantes peut ainsi se voir comme un émouvant cadeau d'amour et d'adieu d'une cinéaste à son complice sur le point de mourir. Alors terminons cette chronique avec les mots d'Agnès Varda.
Il est très difficile de raconter l'amour, la perte et la peine. Nous avons soigné Jacques jusqu'au bout, et puis je l'ai filmé au plus près, parce que ma réponse à sa maladie ne pouvait être qu'une réponse de cinéaste. J'ai capté son être, ses cheveux comme un paysage, sa peau qui était un peu tachée, ses yeux qui regardaient au loin pour dire « Jacques est toujours là ». Jaco de Nantes est un film réalisé par Agnès Varda. Il est sorti en salle en mai 1991.
Le film est disponible en vidéo à la demande, sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD. Éditeur Arte Vidéo et Ciné Tamaris. L'édition vidéo propose de nombreux et passionnants bonnies, comme s'amusait à dire Agnès Varda, qui dans bien des domaines avait un langage bien à elle.
N'a pas envie, comme Jacques Demy, de revoir son enfance en film par Agnès Varda. C'est la fin de l'émission pour ce soir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter le podcast de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, comme d'habitude, avec toutes les infos sur ce dont on a parlé ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end à venir. On se retrouve lundi à 18h10, évidemment. Et on parlera musique avec La Conquête du Son et nutrition avec Cacahuète et compagnie, proposée par José. À lundi, bon week-end.
Them to unbridge the lies of the children in this Babylon ditch. Get shot down, what about them lich? Up to be praised of this forbidden. This big bad business, bad business. I've seen this big bad business, oh. I've seen this bad business in a bad business. I've seen this big bad business, oh.
But not for we box the notes. Innocent, them locking in. Police with the gun, them load. System corrupted in. And for they get so slow, they mash up with more. But evil, they're bald, we're dragging it out. Almighty God, send me Quran. We are gonna fight them like Quran. Chill out, them pressure people on. I'm out of Bible like Quran. Only for mess, them we for on. That's why we style our we pattern. You raise them nuclear batons. So much to tell them that them wrong.
Bad business, I got the bad business. I seen this big bad business, Lord.
Zion. Walk the walk of Zion. Talk the talk of Zion. Walk the walk of Zion. No more fussing, fighting. Let us start uniting. La 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 la. La 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 la. Ah. For the Lord Most High, He is terrible. La la, la 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 la. Talk of Zion, the walk of Zion, talk of Zion.
Lucas, it's like it's my life I live in the ghetto. Now we don't, you know, the car first, me used to live on a cardboard box, you know. Till none of my days it was, we call it pound shilling and pence. So it was the colonialistic days. So when we say the youth, them nowadays, and the man, you know, grandpa got the money, she do all this stuff. Well, for them, what I'm missing. Because you have to be dedicated to the cause.